Bon, ben, merci beaucoup de cette invitation. Et alors, je vais axer mon propos sur le concept de personne, évidemment, et j'essaierai de défendre l'idée qui a été largement avancée, et je suis complètement d'accord par Marc tout à l'heure, d'une polysémie de ce concept. Mais je pense que cette polysémie, elle n'est pas simplement entre, d'un côté, un concept de personne moléculaire, technoscientifique, qui serait l'apanage de la science biomédicale, et de l'autre côté, une personnalisation beaucoup plus traditionnelle, au sens où le patient serait remis au centre du processus de soins. C'est pas une compréhension moléculaire de la personne versus une compréhension plutôt subjective, sociale, etc. Je pense que la polysémie joue au cœur même de la science, au cœur même de la biomédecine, et de ses concepts et de ses technologies. Et c'est ce que je vais essayer de... Donc je vais essayer de vous présenter les premiers résultats de cette réflexion et qui doit se poursuivre dans un prochain programme de recherche qu'on va déposer sous peu. Alors avant d'en arriver à ces questions qui vont m'amener à traiter des problèmes d'éthique, hein, de la médecine personnalisée, de l'état de la littérature sur ce sujet-là, je voudrais revenir sur des points historiques très rapidement puisque Marc a déjà tout dit. Alors juste peut-être pour introduire... la question de la polysémie du concept de personne. J'ai fait une petite recherche sur le moteur de recherche PubMed, qui est un moteur de recherche spécialisé en philosophie de la médecine et en philosophie de la biologie. Et PubMed référence donc un grand nombre d'articles, et il ressort, en tapant Personalized Medicine, il ressort un premier article. Alors, il y en a certainement d'autres, mais enfin, un article en 1971, qui s'intitule « Can personalized medicine survive ? Est-ce que la médecine personnalisée peut survivre ?» Et l'article s'inquiète, hein, il a un ton assez alarmiste, s'inquiète du fait que l'ancienne médecine, le médecin de famille, omnicompétent, est remplacé par des spécialistes de tel ou tel organe, donc une médecine qui se surspécialise, qui s'anonymise, qui devient de plus en plus impersonnelle, etc. Donc la médecine personnalisée, dans cet article du début des années 70, est ressaisie comme quelque chose qui est du passé et pour lequel il faut s'inquiéter et avoir éventuellement une nostalgie. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire, ça paraît être un horizon des politiques de santé. Hein, c'est une sorte de panacée supposée résoudre un certain nombre de problèmes qu'a abordé Marc en termes de processus d'innovation pharmaceutique, en termes de coûts des systèmes de santé, etc. etc. Donc comment est-ce que ce même terme, qui désignait une médecine du passé, une médecine vieillotte, sympathique, centrée sur le colloque, comme on dit, du patient et du médecin, en est venu à désigner quelque chose qui est de l'ordre d'un programme à la fois scientifique et politique de santé pour les pays industrialisés. Il faut savoir effectivement que ce concept de médecine personnalisée est le nouvel horizon des politiques de santé, pas simplement en Europe ou en Amérique du Nord, mais aussi dans des pays comme la Chine, comme le Japon, qui s'y sont très largement mis, et que c'est donc un phénomène largement mondialisé. On l'a dit tout à l'heure, le domaine phare de la médecine personnalisée, c'est indéniablement la cancérologie. Je donnerai un certain nombre d'exemples. Il faut aussi mentionner, pour situer l'émergence de ce concept de médecine personnalisée dans sa version actuelle, il faut aussi évoquer le programme Génome Humain, dont a parlé Marc tout à l'heure, le programme Génome Humain dans les années 90, qui fait apparaître, pour résumer évidemment très rapidement, deux choses fondamentales, au moins. Premièrement, que le nombre de gènes dans le génome humain est très inférieur à ce qu'on pensait au départ, puisqu'on s'attendait à trouver, au moment de commencer de lancer le programme, entre 50 et 100 000 gènes, hein, c'était une estimation. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a plutôt entre 20 et 25 000. Donc ça veut dire quelque chose de très important, ça veut dire qu'on ne peut plus faire correspondre un gène et une protéine, puisqu'on pensait aussi, il y a une trentaine d'années, que le nombre de protéines accomplissant les fonctions cellulaires tournait autour de 100 000, en gros. Aujourd'hui, ce serait plutôt entre 3 et 500 000. Donc 3 à 500 000 protéines contre 25 000 gènes, évidemment. Toutes sortes de mécanismes non codés dans les gènes, les mécanismes épigénétiques extrêmement divers, interviennent pour passer du génome à la protéine fonctionnelle de la cellule. Le deuxième enseignement très important du programme Génome Humain, et qui va être impliqué directement dans l'émergence du concept de médecine personnalisée, c'est la grande variabilité du génome. C'est-à-dire qu'on a découvert que le génome de chacun d'entre nous diffère, enfin nous différons assez fortement au plan génétique. Je crois que l'estimation, c'est d'environ 1 pour 1000. Hein, sur 3 milliards de paires de bases, nous avons 3 millions de petites variations. Alors certains de ces variants sont, de ces variants génétiques sont dits communs, c'est-à-dire qu'ils concernent un peu plus de, enfin, au moins 1% de la population. D'autres sont des variants très rares, voire orphelins, donc ils concernent très peu de monde, voire une personne. Donc grande variabilité du génome. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est directement impliqué dans l'émergence du concept de médecine personnalisée ? Eh bien parce qu'à la fin des années 90 se constitue un consortium d'une dizaine d'entreprises pharmaceutiques, mais pas simplement, il y avait aussi Motorola, je crois, enfin d'autres acteurs, mais ce sont essentiellement des pharmaceutiques qui se réunissent pour commencer à faire une cartographie d'une classe de ces petits variants génétiques qu'on appelle les polymorphismes d'un seul nucléotide. Donc ce sont des changements d'une base dans la séquence d'ADN, remplacée par une autre base qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et ce consortium se lance dans l'entreprise de cartographier les variants, les single nucléotide polymorphisme, donc ces polymorphismes d'un seul nucléotide, en vue, évidemment, d'en tirer de nouvelles cibles thérapeutiques. Et c'est à l'occasion d'un compte-rendu sur l'activité de ce consortium qu'en 1999 est publié un premier article, qui mentionne le concept de personalized medicine. Donc c'est, tu l'as dit, c'est toute fin des années 90, très exactement 99, où le concept de médecine personnalisée est proposé, et depuis lors, évidemment, il ne cesse d'apparaître dans la littérature dans les années 2000, mais qui est directement lié à ce consortium et à son activité. Alors, je vais pas revenir sur les technologies, mais évidemment, le développement de technologies très haut débit, multiplexées, c'est-à-dire qui offrent la possibilité de conduire plusieurs analyses sur un même support de type biopuce, a un rôle extrêmement important, puisque ce sont ces technologies qui permettent d'acquérir un très très grand nombre de données à moindre coût et en un temps limité. Les nanotechnologies dans ce domaine apportent depuis quelques années leur concours à ce développement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder dans la littérature, puisque c'est tout récemment, je pense 2, 3, 4 ans, que les nanotechnologies, les discours d'accompagnement des nanotechnologies ont rejoint le mainstream de la médecine personnalisée. On voit une collusion de plus en plus forte entre les discours d'accompagnement de ces deux domaines se réunir et constituer un horizon en quelque sorte commun où finalement la médecine personnalisée apporte de nouvelles justifications au discours d'accompagnement des nanotechnologies, et les nanotechnologies apportent peut-être elles aussi de nouvelles possibilités à une médecine personnalisée qui peine à convaincre, puisque contrairement aux promesses du départ, aux promesses du début des années 2000, finalement on a vu relativement peu de biomarqueurs validés par les agences européennes ou américaines et passés dans la routine clinique. Donc il y a une interrogation aussi sur cette médecine personnalisée et sur la capacité de cette médecine à passer du très grand nombre de biomarqueurs identifiés comme potentiellement intéressant dans la littérature, on en compte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers, à des médicaments effectivement enregistrés et utilisés en routine. Ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Donc il y a une grosse interrogation sur cette question. Alors les nanotechnologies ouvrent la voie à une... Alors on a parlé tout à l'heure de New Generation Sequencing, les séquenceurs de nouvelle génération, donc à une troisième génération de séquenceurs. Je donnerai un exemple assez intéressant, ce sont les séquenceurs de type nanopore. Donc en fait, un pore, c'est un tout petit trou dans une membrane. Et le séquençage à base de nanopore est basé sur le fait qu'en appliquant une tension électrique, la membrane sépare deux électrolytes, et en appliquant une tension électrique, on génère un canal ionique. Il suffit de mettre ce qu'on veut séquencer, donc nos brins d'ADN ou d'ARN, ils vont passer aussi par le pore, et un nucléotide à la fois, et il se trouve que chaque nucléotide a une signature électrique qui lui est propre. Donc il suffit de regarder, d'enregistrer les signaux électriques à chaque passage d'un nucléotide pour avoir la séquence. Bon, c'est ça le principe du séquençage nanopore, enfin à base de nanopore. Il y en a d'autres, j'insiste pas là-dessus. Disons que ça c'est une voie de recherche ou un ensemble de voies de recherche dont on s'accorde, enfin qui semble prometteuse aujourd'hui. En tout cas, je l'ai dit, il y a une sorte de conjonction entre nanotechnologie et médecine personnalisée assez récente. Donc, alors, j'en arrive maintenant à ce que je voudrais dire sur le concept de personne. Ce qu'il faut absolument comprendre sur la médecine personnalisée, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de fournir une information supplémentaire au médecin. On voit souvent ça dans la littérature, pour éviter d'effrayer, pour dire que bon, on est sur quelque chose d'incrémental, c'est-à-dire que ces technologies-là vont apporter quelque chose au médecin qui reste évidemment tout à fait central, rien ne va changer, le colloque du patient et du médecin reste intact. Simplement, on apporte une information sur le génome, une information sur le protéome qui est censée aider le médecin à la prise de décision. Alors, je pense que on l'a vu assez amplement tout à l'heure, il s'agit bien sûr de tout à fait autre chose. Il s'agit beaucoup plus d'une transformation en profondeur, d'abord de la nosographie, c'est-à-dire de ce qu'on tient pour, enfin la manière dont on se représente le pathologique. Le pathologique aujourd'hui, enfin dans la cancérologie notamment, le cancer est appréhendé en termes de voie de signalisation moléculaire, c'est-à-dire que finalement le pathologique est déconnecté d'un organe particulier, où par exemple, on l'a vu tout à l'heure, un médicament qui va cibler une altération moléculaire peut fonctionner dans les cas de cancer du sein, mais aussi dans le cas de cancer de l'ovaire, dans les cas du cancer du poumon ou dans le cas du cancer colorectal, dans le cas de la leucémie, mais dans le cas du gyste, etc. etc. Donc on a une sorte de délocalisation par rapport à une pathologie centrée sur les... Enfin, par rapport à une... aux organes et à une médecine anatomopathologique classique, avec des molécules qui peuvent être efficaces dans plusieurs pathologies, plusieurs organes atteints d'une pathologie différente, au motif que ces pathologies différentes présentent les mêmes altérations moléculaires. Donc il y a trois registres de transformation qu'il faut prendre en compte. Le premier registre, c'est le registre épistémique, donc le registre de définition, de compréhension de la maladie, transformation de la nosographie, où les maladies sont plus classées en fonction de leur localisation, mais en fonction de leurs caractéristiques moléculaires, avec au final une transformation dans les concepts de normal et de pathologique. Une transformation dans les concepts de normal et de pathologique. Je m'appuierai sur trois références qui me paraissent importantes. La première est celle d'un anthropologue extrêmement connu qui s'appelle Nicholas Rose, et qui, effectivement, consacre un article en 2010 à cette transformation des concepts du normal et du pathologique, dès lors que, comme je le disais tout à l'heure, la variation n'est plus un écart à une norme donnée, qui serait le standard de chacun, mais c'est la variation elle-même qui devient la norme. Hein, nos génomes diffèrent beaucoup les uns des autres, et cette variation nous définit en propre, et elle constitue la norme, finalement, la nouvelle norme de référence. Donc, dans ce contexte-là, finalement, on ne sait plus trop ce qu'il faut considérer comme normal et comme pathologique, et Rose en arrive à reposer la question qui est de savoir si les concepts de Canguilhem, ces concepts de normal et de pathologique, peuvent continuer à être utilisés. En tout cas, s'ils le peuvent, c'est certainement pas au sens de Canguilhem. C'est ça la conclusion de Rose. Alors, le deuxième article que je voulais mentionner, c'est l'article d'une éthicienne américaine qui s'appelle Ruth Chadwick, et qui, elle, s'appuie sur le concept d'épigénétique ou d'épigénomique, je ne sais pas comment il faudrait dire, quel est le meilleur terme, c'est-à-dire finalement d'une situation où tous ces mécanismes que j'évoquais rapidement tout à l'heure, tous ces mécanismes qui ne sont pas codés dans le génome, mais qui régule l'expression génique et qui régule au final l'activité des protéines, sont extrêmement sensibles à l'environnement. Et que cette situation de grande sensibilité de ces mécanismes-là par rapport à l'environnement, et notamment par rapport aux conditions d'existence dans lesquelles un individu est placé, font que finalement, quand un médicament se révèle efficace parce qu'il agit sur un mécanisme épigénétique, eh bien, cette action-là peut être réversible et elle dépend du style de vie que l'individu adopte, des règles de vie qu'il s'impose, en matière alimentaire par exemple. C'est-à-dire que ce que montre Ruth Chadwick, c'est que l'importance prise par le concept d'épigénétique change aussi la question de la responsabilité du patient par rapport à son propre état de santé. Et elle pointe, et Rose va dans le même sens, notamment lui et d'autres, une notion de surresponsabilisation du patient dès lors que ce sur quoi intervient le médicament, le bénéfice que le médicament apporte, peut apporter est réversible, puisque ce sont des mécanismes, encore une fois, qui peuvent être, qui ne sont pas fixés dans le génome, et qu'il appartient au patient d'adopter le style de vie, les comportements qui lui permettent justement de conserver le bénéfice de traitement, de thérapie personnalisée. Donc la troisième référence que je voulais vous donner sur cette notion de normal et de pathologique est celle de deux sociologues canadiens, Peter Keating et Alberto Cambrosio, qui appartiennent au courant Science and Technology Studies et qui ont beaucoup travaillé sur le cancer. Et dans un article tout à fait récent, Keating est très intéressant, Keating et Cambrosio montrent une sorte de glissement d'une appréhension du patient en termes de facteurs de risque à une appréhension du patient dans un terme qui a été évoqué tout à l'heure par Marc, qui est celui d'actionability. Je donnerai un exemple pour illustrer ce propos. Si vous regardez l'essai clinique qui est actuellement en cours à l'Institut Gustave Roussy, qui est un essai clinique qui porte sur des femmes atteintes de cancer du sein. Cet essai clinique repose sur un principe méthodologique et épistémologique très différent de celui de la stratification. Donc la stratification, on l'a vu tout à l'heure, consiste à catégoriser les patients en fonction de certaines caractéristiques moléculaires. Donc il s'agit d'identifier des variants moléculaires d'intérêt, et on ne fait rentrer dans l'essai clinique que les variants dont on pense qu'ils vont être ciblés par la molécule qu'on va tester. Donc on exclut certains patients ou certaines patientes d'un essai clinique. L'essai SAPHIR, Shiva, c'est celui de Curie. L'essai SAPHIR, donc de l'Institut Gustave Roussy, est basé sur un principe complètement différent. On fait rentrer tout le monde, toutes les patientes dans l'essai clinique. On génotype toutes ces femmes, c'est-à-dire qu'on séquence intégralement le génome et on ne fait pas simplement la recherche du variant qu'on a identifié au départ comme étant un variant d'intérêt. Et on fait tourner un algorithme pour essayer de savoir ce sur quoi on va pouvoir agir, pour identifier les bonnes cibles qui vont permettre d'orienter les patientes en fonction de leur profil de cible d'intérêt, de ce qu'on aura détecté grâce à cet algorithme, vers les centres de soins capables de proposer une molécule thérapeutique à disposition. Donc le concept directeur de ce type d'essai clinique, ce n'est plus du tout le facteur de risque. C'est ce sur quoi on peut agir. Est-ce qu'on peut agir sur telle cible ou sur telle autre? Est-ce qu'on dispose d'une molécule d'intérêt capable d'inhiber l'activité kinase de telle enzyme, un anticorps monoclonal qui interviendrait sur un récepteur de facteur de croissance, etc. Donc c'est ce contexte d'actionability, c'est-à-dire de capacité à intervenir sur des mécanismes moléculaires qui semble aujourd'hui structurer l'approche du patient, hein, en quelque sorte. Alors, le premier registre, donc, c'est ce registre épistémique où un certain nombre de concepts de la philosophie de la médecine sont manifestement révisés. Le deuxième registre extrêmement important, c'est le registre politico-économique, mais on en a dit beaucoup de choses tout à l'heure, sur la réforme des essais cliniques, sur le problème de l'innovation en domaine pharmaceutique. Il faut savoir que le nombre de molécules enregistrées par la FDA, l'autorité de régulation américaine, entre la fin des années 90 et 2010, est passé de 56 ou 57 à 21. Donc il y a une vraie crise de l'innovation. Le nombre de molécules échouant aux phases 2 et aux phases 3, surtout aux phases 2 d'ailleurs, des essais cliniques, a été multiplié par 2 entre le début des années 2000 et la fin des années 2000. À la fin des années 2000, c'est 5% des molécules de phase 1, testées en phase 1 d'un essai clinique, arrivent jusqu'à l'enregistrement. C'est avec 95% de taux d'attrition, ce qui est quand même considérable. On comprend bien que les pharma soient peu enclines à s'engager dans un processus très long, très coûteux, de mise au point de nouveaux médicaments. Alors évidemment, dans ce contexte-là, l'introduction d'un biomarqueur, c'est-à-dire d'un variant génétique notamment, qui permet de stratifier et donc de ne faire entrer dans l'essai clinique que les personnes porteuses de ce variant d'intérêt dont on pense que le médicament testé va pouvoir les cibler, eh bien cette stratégie évidemment est supposée relancer le processus d'innovation pharmaceutique. Donc ça, c'est un aspect tout à fait important. Il faut aussi mentionner les aspects réglementaires. Il faut savoir qu'aussi bien aux États-Unis, sur le continent nord-américain qu'en Europe, les chaînes de validation des médicaments d'un côté et des dispositifs médicaux de l'autre sont séparées. Avec une chaîne de validation, enfin disons un processus de validation des dispositifs médicaux beaucoup plus léger, on va dire, beaucoup plus lâche en quelque sorte que pour les médicaments. Or, bien évidemment, la médecine personnalisée va de pair avec une combinaison de ces deux aspects. L'aspect médicament, donc de thérapie ciblée, mais aussi l'aspect test qui doit détecter si un patient est porteur ou pas d'un variant. On donnait l'exemple tout à l'heure de l'herceptine qui cible la surexpression d'une protéine membranaire. Eh bien, l'herceptine est associée à des tests, donc il y en a un certain nombre, qui détectent la présence, ce sont des tests immunohistochimiques, je crois que le premier c'est un test immunohistochimique, il doit y en avoir d'autres, qui détectent la surexpression de cette protéine. Donc les autorités de régulation sont engagées aujourd'hui dans une réflexion sur l'harmonisation entre les chaînes de validation des médicaments et des dispositifs médicaux, ce qui n'est pas extrêmement simple. En outre, l'un des enjeux actuellement et pour l'avenir, c'est de pousser les industriels de la pharmacie et ceux du diagnostic à travailler ensemble, ce qui n'est pas non plus dans leur culture respective. Mais évidemment, c'est indispensable si on veut éviter une situation qui a été, qu'on a connue, à savoir un médicament de thérapie ciblée, une thérapie ciblée arrivant sur le marché sans le test qui détecte, qui permet de définir son périmètre d'application, donc, ce qui est évidemment une absurdité. Pour clore sur ce registre, rapidement, il faut savoir que la médecine personnalisée, c'est aussi la possibilité pour des pharmas de sauver, entre guillemets, de récupérer des molécules qui auraient échoué dans un essai clinique. On a un exemple, enfin, on a plusieurs exemples. J'en citerai un que Marc a donné tout à l'heure. C'est le gefitinib, donc, qui a été commercialisé sous le nom d'Iressa, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, un anticancéreux, peu importe, et qui a échoué dans un premier temps en phase 2 ou 3 d'un essai clinique, et qui a été sauvé grâce au fait qu'on ait identifié une strate de la population, enfin de la population des patients, sur lesquels ce médicament est efficace, et il a fini par être enregistré. Donc c'est une manière aussi pour les pharmas de récupérer des molécules qui seraient passées à la trappe, si vous me passez cette expression. Alors, le troisième registre sur lequel je vais m'attarder un petit peu, c'est le registre éthique. Vous avez une littérature assez importante aujourd'hui sur les enjeux éthiques de la médecine personnalisée. Alors, une grande question qui se pose dans cette littérature, c'est de savoir si la médecine personnalisée pose des questions nouvelles par rapport à la bioéthique. Bon. Un certain nombre de questions sont assez classiques, ne sont pas nouvelles. Elles sont peut-être renouvelées à la marge par notamment le développement de ces technologies très haut débit. Je vais vous dire en quoi, mais globalement, ce sont des questions qu'on trouve déjà antérieurement. Alors, ces technologies très haut débit, et c'est un point de focalisation dans les littératures, promettent que bientôt, il sera possible d'effectuer à bas coût et de manière systématique ce qu'on appelle le whole genome sequencing, c'est-à-dire le séquençage intégral du génome. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, de questions en tout cas, au sens où cette information systématique concernant les génomes individuels va bien au-delà de la question posée au moment où on acquiert l'information, hein, qui concerne un patient, une patiente. On va essayer de savoir si la patiente ou le patient est porteur de telle ou telle mutation génétique, de telle ou telle caractéristique moléculaire. On accumule une information qui va bien au-delà de la question posée. Une information qui est stockée, qui est conservée, la littérature évoluant, de nouvelles découvertes arrivant ou étant susceptibles d'arriver, il se peut que quelques années plus tard, on ait une nouvelle perspective sur cette information et qu'on soit en capacité d'apporter une information nouvelle au patient ou à la patiente qui a depuis longtemps quitté le processus de soins, qui est retourné à la vie normale, etc. Et une question très souvent posée dans cette littérature, c'est mais que doit faire le patient? Qu'est-ce qu'il doit dire ou pas à un malade qu'il a en face de lui, mais aussi est-ce qu'il doit rappeler d'anciens patients, d'anciennes patientes plusieurs années après pour dire que l'information accumulée, acquise des années auparavant permette de poser soit un nouveau diagnostic, soit d'identifier un nouveau facteur de risque, etc. etc. La question de ce qu'on appelle l'information secondaire, c'est-à-dire une information qui ne va pas vous concerner, vous seulement, qui avez fait la démarche du séquençage, ou etc., mais qui va concerner, par exemple, vos proches. Que fait-on de cette information secondaire ? Ce n'est pas une question propre à la médecine personnalisée, mais il est évident que les technologies d'acquisition très haut débit d'une quantité massive de données intensifient encore ce problème de l'information secondaire. Alors, pour aller ce qui me semble être les trois aspects propres à la médecine personnalisée, en tout cas qui apparaissent comme étant caractéristiques de la médecine personnalisée, je dirais d'abord, en reprenant un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de la responsabilité intensifiée, renforcée des individus concernant leur état de santé. Ce que Rose appelait la surresponsabilisation des individus concernant leur état de santé, avec le développement de disciplines nouvelles, comme par exemple la nutrigénomique ou la nutriprotéomique, c'est-à-dire des disciplines qui vont essayer d'associer, de corréler un régime alimentaire au génome ou au protéome d'un individu, avec une forte injonction faites aux individus de suivre à la lettre ce régime alimentaire dont la nécessité est en quelque sorte inscrite dans les molécules. Alors, le deuxième point extrêmement important et inattendu, dans une certaine mesure, c'est la résurgence d'un discours sur les races. Alors, pourquoi inattendu ? Eh bien, parce que on pouvait penser, à la fin du programme Génome humain, au moment où la séquence génétique a été rendue publique, en 2003, je crois, que c'en était fini de toute pertinence, de toute possibilité d'associer génétique et discours sur les races. Le concept de race n'est pas du tout un concept pertinent génétique. Il y a des variants, des différences génétiques entre groupes de population, mais ça peut être une différence génétique entre un groupe de Suédois et un groupe de Maliens ou de Sénégalais, de même qu'entre un groupe de Suédois et un groupe d'Allemands, ou un groupe d'Allemands et un groupe de Français, entre des gens à Toulouse et puis des gens à Strasbourg. Tout dépend de la cohorte que vous constituez. Donc bien sûr qu'il y a des différences génétiques entre groupes populationnels, mais ça n'a strictement rien à voir avec les races. Or, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est une refocalisation, en quelque sorte, de la communauté, des communautés médicales, sur ce concept de race. Et je crois qu'il faut en situer le marqueur le plus emblématique en 2005, lorsque la FDA enregistre le fameux Bidil, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le premier médicament racial, en quelque sorte, enregistré par une autorité de régulation. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que le Bidil, c'est une combinaison de deux médicaments prescrit pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Bon. Et le Bidil n'est pas du tout un nouveau médicament. C'est un médicament qui a été mis au point dans les années 80 et qui s'adressait donc aux gens pouvant potentiellement être atteints de ces maladies cardiovasculaires, mais qui s'adressait à tout le monde, où le concept de race n'intervenait absolument pas. Et le fabricant de ce Bidil a, à l'époque, déposé un brevet en 1987, et un brevet qui devait courir jusqu'en 2007. Et le coup de génie du fabricant, l'entreprise pharmaceutique fabricante, ça a été de refaire un essai clinique, mais en incluant dans l'essai clinique que des populations noires américaines, et de faire avaler, entre guillemets, à la FDA que le Bidil devait être relabellisé comme médicament particulièrement efficace sur une catégorie de population définie par un critère de race. Et la FDA a enregistré en 2005 ce médicament. Donc, ce n'était pas du tout une nouvelle molécule, c'est exactement la même molécule, mais requalifiée comme médicament racial, vous avez compris, je pense, pourquoi, l'industriel fabricant a désormais un brevet qui court jusqu'en 2020. Voilà, donc, ça, c'est une stratégie pharmaceutique assez classique, c'est-à-dire qu'on revend comme nouvelle molécule ce qui est en fait une vieille molécule, la nouveauté étant que la stratégie est passée par une réintroduction d'un concept de race. Il y a des études, certaines enquêtes ont été faites, je pense à deux auteurs extrêmement importants, Hunt et Jonathan Kahn aux États-Unis, qui ont fait une enquête auprès de médecins notamment, et qui ont montré, d'une part, que médecine personnalisée, dans les faits, pour les médecins, ça ne veut pas du tout dire prescrire le bon traitement à la bonne personne, à la bonne dose, etc. Ça veut dire prescrire un médicament adapté à des races. Donc, en dehors de toute pertinence scientifique, on est bien d'accord. Mais c'est ce que c'est en train de devenir. C'est une des faces, à mon avis, extrêmement sombre de la médecine personnalisée. Et l'autre aspect des choses, c'est au niveau de la recherche elle-même, finalement, des chercheurs qui sont tout à fait convaincus de la pertinence de cette catégorie de race, de ce concept de race, pour le processus de mise au point de nouveaux médicaments, et qui savent bien, qui imaginent bien que certains problèmes éthiques peuvent se poser, mais qui renvoient ces problèmes aux éthiciens de profession, donc en dehors du champ de la recherche biomédicale. Donc je crois qu'il faut le dire, parce que c'est un des traits, depuis quelques années, un des traits de la médecine personnalisée, qui était déjà d'ailleurs dans les fondements, puisque Werner Kallo, qui était le biologiste allemand à l'origine du concept de pharmacogénomique, pharmacogénétique, c'est-à-dire d'associer l'efficacité d'un médicament à un profil génétique, dès le début, il ne s'en cachait pas, considérait que le concept de race avait évidemment un rôle extrêmement important à jouer dans cette segmentation des populations en fonction de leurs caractéristiques génétiques et en vue de l'efficacité des traitements. Et il l'a redit dans un article en 2005, donc les choses étaient là, mais des gens comme Watson, au début des années 2000, avaient des propos assez triomphants en disant que le programme génome humain avait mis un terme définitif à cette question, manifestement pas, et il faut en avoir conscience. Alors le troisième élément qui est d'ordre éthique, qui est assez spécifique à la médecine personnalisée, et il a été évoqué tout à l'heure, c'est le risque d'un creusement des inégalités d'accès aux thérapies ciblées compte tenu de leur coût très élevé. Bon, on ne va pas y revenir parce qu'on a eu une petite discussion tout à l'heure, mais si ça vous intéresse, je vous conseille de lire le travail de Léonard Fleck, qui est philosophe de la médecine, un article extrêmement intéressant en 2013, où il pose vraiment la question. En fait, le problème, ce n'est pas tellement, ou pas prioritairement, que ces thérapies coûtent extrêmement cher, c'est que le bénéfice derrière, il n'est pas du tout évident. S'il s'agit de pomper une quantité considérable de la capacité de remboursement de la sécurité sociale pour des thérapies dont le bénéfice se traduit au mieux en quelques semaines, peut-être quelques mois de survie, est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'évidemment, on ne conduit pas de recherche dans d'autres secteurs. Donc, pour finir sur ces aspects, ces trois registres, et pour encore une fois abandonner l'idée qui est souvent avancée qu'on a affaire à une médecine qui fournit simplement une information supplémentaire sur la base de ces technologies aux médecins, il faut dire que la médecine personnalisée, c'est la construction d'un nouvel agencement, de manière de produire des savoirs sur les maladies, de manière de soigner. C'est un nouveau mode d'organisation de la médecine comme institution sociale. Sont de nouvelles pratiques de santé et, je vais y venir maintenant, probablement une nouvelle définition de la personne dans son rapport à la santé, à la maladie et à l'institution sociale de la santé. Marc l'a dit tout à l'heure, le concept de personne est extrêmement polysémique. Alors, le premier point, c'est que le périmètre de la médecine personnalisée n'est pas bien défini, n'est pas bien cerné. Marc a eu tout à fait raison, à mon avis, d'insister sur la médecine personnalisée génomique. C'est l'essentiel de la médecine personnalisée. Mais si on regarde le rapport récent de la FDA, donc paru en 2013, rendu public en 2013 et consacré à la médecine personnalisée, on trouve une définition beaucoup plus large. Et par exemple, la FDA englobe dans la notion de médecine personnalisée, premièrement, les progrès dans l'imagerie médicale, qui permettent, selon la FDA, d'adapter les traitements aux caractéristiques non seulement génétiques, mais aussi anatomiques et physiologiques des patients. Deuxièmement, la diffusion massive des téléphones portables. Ça fait partie de la médecine personnalisée. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça favorise le développement de l'e-santé, ce qu'on appelle l'e-santé, l'electronic health. Troisièmement, font partie aussi de la médecine personnalisée les biocapteurs, de plus en plus performants, là aussi avec l'apport des nanotechnologies, et qui permettent le développement de pratiques de surveillance de soi en continu, ce qu'on appelle le quantified self, c'est-à-dire le fait d'enregistrer en permanence certains paramètres vitaux afin d'affiner le suivi de son propre état de santé. Quatrièmement, le développement d'Internet fait partie de la médecine personnalisée parce que ça rend possible des pratiques de self-monitoring, de suivi, en dehors des institutions médicales traditionnelles. Je vous donne un exemple. Vous avez des sites Internet comme Genomera ou bien Cancer Commons qui constituent des lieux de construction de communautés de patients qui sont, par exemple, porteurs d'un marqueur génétique bien défini et qui s'informent mutuellement sur les thérapies ciblées en développement ou sur les essais cliniques en cours, etc. et qui donc construisent leur stratégie thérapeutique de façon individualisée. Donc tout ça, pour la FDA, fait partie de la médecine personnalisée. Et enfin, cinquièmement, la FDA intègre dans la médecine personnalisée le développement de la médecine régénératrice et les recherches sur les cellules souches qui ouvrent sur des perspectives de personnalisation extrême. Je donnerai une autre référence, une philosophe spécialiste d'éthique médicale américaine qui s'appelle Donna Dickinson, qui a fait paraître récemment un livre tout à fait intéressant intitulé « Mi-médecine versus oui-médecine », la médecine centrée sur le moi, la médecine personnalisée versus une médecine plutôt sociale, et qui fait rentrer dans le concept de médecine personnalisée non seulement donc la pharmacogénomique, mais aussi la vente de tests génétiques en ligne, le stockage privé du sang du cordon ombilical, pour des parents qui veulent s'assurer un accès futur aux cellules souches en cas de maladie, ça fait partie de la médecine personnalisée, ou bien des possibilités d'amélioration neurocognitive. Donc vous voyez que le périmètre de la médecine personnalisée n'est pas du tout consensuel, n'est pas du tout fermé. C'est pas que la génomique, ça recouvre aussi des pratiques, un ensemble de pratiques de santé assez nébuleuses. Alors, il faut rapporter les choses à leur juste proportion. Vous avez sans doute entendu parler de ces tests génétiques en ligne. Vous savez, il suffisait jusqu'à tout récemment d'envoyer par la poste un échantillon de salive et quelques semaines plus tard, vous receviez une analyse, alors une séquence de 500 000 variants génétiques, ces fameux polymorphismes d'un seul nucléotide, avec facteurs de risque associés pour un certain nombre de maladies. Tout ça, évidemment, est très automatisé. C'est un beau cadeau de Noël que les gens commençaient à s'offrir comme ça, puisque pour moins de $100, on avait la séquence de ces variants, etc. Et alors, je disais, on pouvait, parce que la FDA rappelait à l'ordre une société emblématique dans ce secteur-là, qui est 23andMe, pour dire que vous donnez une information de santé, et à partir du moment où vous donnez une information de santé, où vous avez une véritable démarche de santé, il faut rentrer dans le processus de validation de vos dispositifs médicaux, etc. Et vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Donc ils ont retiré cette information de leur prestation de service, sans baisser le prix d'ailleurs, et on ne trouve plus sur... donc vous ne recevez plus que des informations de type généalogique, par exemple. C'est-à-dire que sur la base de ces variants, on peut vous dire aussi d'où vous venez, quels sont vos ancêtres. Voilà. Donc il y avait toutes ces informations-là qui intéressent beaucoup les clients de ces services. Alors pour replacer quand même les choses à leur niveau, c'est vrai que c'est le développement de. Enfin, il y a un engouement pour ces services de génétique en ligne, de tests génétiques en ligne. Mais je crois que c'est en 2010 ou en 2011, ça pesait aux alentours de entre 20 et 25 millions de dollars aux États-Unis. En plein essor, hein, mais 20-25 millions de dollars, contre plus de 6 milliards de dollars pour les laboratoires pratiquant des tests dans un contexte médical. Donc la médecine personnalisée, génomique, institutionnalisée, représente un enjeu à la fois industriel, économique, qui est d'une autre nature que les tests génétiques en ligne. Donc je pense que c'est tout à fait justifié de regarder de ce côté-là. Donc premier constat, le périmètre de la médecine personnalisée n'est pas nettement délimité. Deuxième constat, la signification même du concept de personne dans la médecine personnalisée est sujet à controverse. Et je donnerai un exemple qui est le petit texte que vous trouvez sur le site de l'INSERM qui traite de la médecine personnalisée, où ce texte de l'INSERM fait constamment le va-et-vient entre la médecine personnalisée qui consiste à traiter chaque patient en fonction des spécificités génétiques, en fonction de ses caractéristiques moléculaires, Mais le site, enfin ce petit texte de présentation, insiste aussi sur la médecine personnalisée comme une médecine qui remet le patient concret, c'est-à-dire l'individu dans sa société, etc., au centre du processus de soins, et qui veut faire du sur-mesure pour une meilleure qualité de vie. Donc on a constamment mêlé, mais sans que ce soit véritablement articulé, une médecine personnalisée qui se définit par référence à la molécule, par référence à des technologies très haut débit d'acquisition de données, par référence à des algorithmes qui interprètent ces données, c'est-à-dire à de l'impersonnel finalement. Hein, on reste dans le domaine d'une médecine evidence-based, d'une médecine fondée sur les preuves scientifiques et très quantitatives. Et puis de l'autre côté, une médecine préoccupée par ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire par la dimension du soin dû à un patient que l'on doit prendre en considération de tout point de vue, y compris du point de vue de ses problématiques familiales, professionnelles, sociales, psychologiques, etc. Cette polysémie du concept de personne se traduit d'ailleurs par des divergences d'interprétation chez les patients eux-mêmes. Il y a une enquête qui a été réalisée récemment, qui a donné lieu à une publication en 2012, et qui révèle, sur la base d'une enquête auprès de 69 patients, que ceux-ci ont des définitions extrêmement discordantes de la médecine personnalisée. Je vous en donne un échantillon. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils comprennent par ce terme, individualisation des traitements sur la base des tests génétiques, capacité des patients à participer aux décisions médicales, c'est-à-dire à peser activement dans le choix des thérapies, soins visant une personne déterminée, possibilité d'être en contact constant avec son médecin généraliste. Donc on oscille, là encore, entre une compréhension moléculariste de la médecine génétique et une compréhension de la médecine centrée sur le soin et le respect dû à la personne, et sur le colloque du patient et du médecin. Donc on a des définitions extrêmement hétérogènes qui, là aussi, s'organisent autour d'une grande polarité qui rappelle de vieux débats en philosophie de la médecine, entre une personnalisation au sens d'une génétisation et une personnalisation dans le sens d'une meilleure prise en compte de la situation, des besoins et des souhaits du malade dans le processus de soins. Toujours dans le même idée, pour illustrer cette polysémie du concept de médecine personnalisée, la notion elle-même a été extrêmement critiquée ces dernières années. Elle a été extrêmement critiquée, et précisément en référence à ces deux conceptions antagonistes de la personnalisation. Et des approches alternatives ont été proposées. Je vous en cite un certain nombre, ce que j'ai pu relever dans la littérature, mais il y en a sans doute d'autres. La person-centered medicine. Donc, non pas la personalized medicine, mais la person-centered medicine, qui est un concept qui a émergé en 2007 à l'occasion d'une conférence à Genève. Et depuis 2007, il y a chaque année un congrès à Genève sur la person-centered medicine. Il y a un journal dédié, une institution. Donc, c'est quelque chose de tout à fait sérieux et qui réunit des gens qui, précisément, font une critique du caractère beaucoup trop réductionniste, du caractère beaucoup trop génétique, moléculaire de la médecine personnalisée. Vous avez le person-centered care, donc on retrouve la notion de care, ou le whole person care, autant de notions, si vous voulez, qui se présentent toutes avec leurs différences. Je vais pas rentrer dans le détail, ce serait un peu fastidieux et puis pas très intéressant finalement. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces approches alternatives entendent rompre avec le réductionnisme supposé prévaloir dans la médecine personnalisée au profit de modèles réellement holistes de la personne. L'autre point qui, à mon avis, est extrêmement intéressant, c'est que ces approches concurrentes, alternatives, ne prétendent pas faire comme le texte de l'INSERM, c'est-à-dire on a d'un côté la médecine personnalisée focalisée sur le génome et les technologies et les algorithmes, et de l'autre côté la personne concrète. On articule tout ça, mais on ne sait pas trop, finalement c'est beaucoup plus juxtaposé qu'intégré dans un modèle global. Ces approches-là prétendent forger de nouveaux modèles épistémiques de la médecine où ces dimensions seraient homogénéisées en quelque sorte. Il y a une réflexion épistémique. Et par exemple, la person-centered medicine s'appuie sur un modèle qui a été proposé dans les années 70, celui de modèle biopsychosocial, où il s'agit de forger une approche unifiée de la personne, aussi bien quant à ses caractéristiques biologiques que quant à ses caractéristiques sociales. C'est la construction d'un modèle épistémique. Ce n'est pas simplement juxtaposer des choses qui resteraient sans rapport les unes avec les autres. Dernier point sur ces propositions concurrentes, mais qui font toutes intervenir la référence à la personne, c'est justement ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il ne pouvait pas y avoir de propositions théoriques pour la médecine du futur qui ne passent pas par le personnel, la personnalisation, par la personne. Or, comme fait remarquer Rose, les principaux acquis de la médecine du XXe siècle n'ont pas du tout été liés à une personnalisation des traitements, mais au contraire, au même traitement pour tous. C'est-à-dire la vaccination pour tout le monde, etc. Tout ça, on en a tiré évidemment en termes de santé publique des acquis considérables, des bénéfices considérables pour les patients. C'est le contraire d'une démarche de personnalisation. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui que la seule proposition théorique pour la médecine, c'est la personnalisation et l'abandon de ce modèle dit one size fits all, c'est-à-dire le même traitement pour tous, qui semble voué aux gémonies. Or, c'est ce modèle one size fits all qui a été justement à l'origine, en tout cas qui a impliqué les principaux acquis de la médecine du XXe siècle. Donc il y aurait une interrogation à avoir sur le concept même de personnalisation dans la médecine. Alors maintenant, si on regarde ce concept même de personne, et je terminerai par ce propos-là, c'est qu'il me semble que le point le plus intéressant, c'est pas d'en rester à l'opposition entre une médecine technoscientifique, une médecine qui raffine ses technologies d'acquisition de données, de traitement de données, versus une médecine du colloque, du patient et du médecin, donc science et art médical, hein, pour reprendre une distinction classique. Mais il me semble que la polysémie passe à l'intérieur même de la médecine technoscientifique. Et je vais donner deux exemples pour illustrer cela, en prenant deux exemples de biomarqueurs utilisés en cancérologie qui, me semble-t-il, renvoient à des concepts différents, concurrents de la personne, alors qu'on reste dans le domaine d'une médecine moléculaire, puisqu'il s'agit d'identifier des biomarqueurs moléculaires pour venir en appui à une stratégie de diagnostic ou de thérapie. Bon, le biomarqueur, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une donnée biologique qui est mesurable, donc ça peut être un gène, enfin un variant génétique, ça peut être une protéine, ça peut être un métabolite, que l'on va corréler de façon statistiquement significative à un processus biologique. Ça peut être la survenue de pathologie, ça peut être l'évolution d'une pathologie, ça peut être la métabolisation d'un médicament. Hein, vous avez des patients qui vont être bons répondeurs ou mauvais répondeurs à un traitement donné. Alors, premier exemple que je prendrai, c'est l'exemple d'un marqueur génétique, d'un variant génétique qui code pour une protéine mutée. Et on a vu tout à l'heure l'exemple de l'herceptine et de cette protéine membranaire surexprimée. Je prendrai un autre exemple qui a été évoqué également, qui est le GFR. Le GFR, c'est un des premiers proto-oncogènes identifiés. C'est le récepteur membranaire d'un facteur de croissance, hein, donc dont certaines mutations sont impliquées dans la dérégulation, hein, de la croissance de la cellule. Donc le GFR, c'est une protéine membranaire qui active plusieurs voies de signalisation jusqu'au noyau de la cellule. Et ces mutations, certaines des mutations sur GFR sont impliquées dans certains cancers du poumon, mais dans d'autres types de cancers également, dans les cancers colorectaux. Bon, il y a aujourd'hui des thérapies ciblées, que ce soit des anticorps monoclonaux ou des inhibiteurs de tyrosine kinase, qui ciblent ces mutations de GFR. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et on l'a vu aussi avec Marc sur la diapositive, c'est que l'efficacité des thérapies ciblées, enfin qui ciblent GFR, va dépendre de l'état d'autres gènes. Par exemple, les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui ciblent les mutations de GFR, vont être, avec de très fortes chances, inefficaces, ou malchance plutôt, inefficaces, en cas de mutation sur le gène KRAS, qui code pour la protéine RAS, qui est impliquée aussi dans ces voies de signalisation. Mais l'activité de ces anticancéreux va dépendre aussi de l'état d'une autre protéine, la protéine PTEN, qui peut inhiber cette activité en cas de mutation. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a le plus souvent, pas toujours bien sûr, il y a des cas heureux, comme le Glivec, on a des taux, des succès qui sont phénoménaux. Enfin, le plus souvent, vous voulez, c'est l'identification d'une cible ne donne pas une indication absolue, une indication certaine sur l'efficacité d'un traitement. On reste dans le domaine du probabiliste. Et finalement, ce qui définit le biomarqueur, c'est moins la molécule isolée, la cible isolée, qu'une sorte de système de renvoi, comme ça, de cible à cible. Donc il s'agit toujours de relancer la découverte, la recherche de nouvelles cibles qui peuvent être impliquées dans l'efficacité d'un traitement. On l'a vu par ailleurs, les tumeurs sont hautement résilientes, elles sont très évolutives. Une tumeur, c'est une sorte de micro-organisme extrêmement complexe qui mute en permanence. Le génome des métastases, ce n'est pas le même que le génome des cancers d'origine. Phénomène de développement de résistance à des traitements, tout ça est bien connu, c'est très fréquent, et pose des problèmes, justement, aux médecins qui doivent constamment essayer de trouver de nouvelles cibles actionnables. Alors, voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple de marqueur sérique du cancer. Alors, ce qu'on appelle un marqueur sérique, c'est une substance présente dans le sang, souvent une protéine, et qui donne une indication, enfin, dans la concentration, donne une indication sur l'évolution des tumeurs. Donc, cette concentration peut être mesurée par des techniques assez simples, d'immunoassays, le plus souvent. Or, et là, je restitue des entretiens que j'ai eus avec des chercheurs dans ce domaine, le marqueur sérique n'a pas le même statut personnalisant que le marqueur génétique. Pourquoi ? Eh bien, parce que le marqueur sérique est beaucoup plus générique. Le marqueur sérique est générique, il n'est pas qualitativement personnalisant, contrairement à un variant génétique, par exemple. Un individu a en effet un variant allélique d'un gène, une mutation sur un gène qui va faire que ce gène est qualitativement distinct chez lui et par rapport à celui du voisin. En revanche, les marqueurs sériques sont aussi libérés dans le sang par des tissus sains. Les marqueurs sériques se retrouvent y compris chez les individus qui ne sont absolument pas malades du cancer. Ils sont présents partout. Donc ce biomarqueur est générique et seul son usage approprié peut conduire à la personnalisation du traitement. C'est-à-dire que ce n'est pas le biomarqueur lui-même, ce n'est pas la molécule qui est personnalisante, c'est l'usage qu'on en fait. Et par exemple, pour mon interlocuteur de l'époque, travaillant sur ce type de marqueur, personnaliser, ça ne signifie pas faire entrer des individus dans des classes de risque, ou dans des strates de bons ou de mauvais répondeurs à des médicaments. Ça veut dire faire un usage approprié d'un marqueur, il faut voir après ce que ça veut dire approprié, un marqueur qui, en lui-même, intrinsèquement, est générique et non discriminant. Or, qu'est-ce que ça veut dire approprié, usage approprié d'un marqueur sérique ? Eh bien, ça implique de prendre en compte, d'abord, la très grande variabilité des concentrations de marqueurs sanguins en fonction des individus. Ces marqueurs sont présents, y compris chez les individus sains, mais nous n'avons pas, naturellement, en quelque sorte, les mêmes concentrations de ces marqueurs dans le sang, et c'est ça qu'il s'agit d'évaluer. Par ailleurs, il est difficile de faire la distinction entre des variations de concentration de ces marqueurs qui sont effectivement pathologiques par rapport à une norme de référence et des variations qui sont dues au fait que les concentrations de ces marqueurs dépendent très fortement de l'état de l'individu à un moment donné, d'un état de stress par exemple, de ses conditions d'existence à un moment donné ou de sa constitution naturelle. C'est-à-dire la frontière entre le normal et le pathologique, on le disait tout à l'heure, devient extrêmement difficile à pointer. Donc, un usage approprié de ces marqueurs sériques requiert d'enregistrer dans le temps l'évolution de la concentration de ces marqueurs chez une personne prise individuellement. Et c'est pour ça que c'est personnalisant. Ce n'est pas le marqueur lui-même qui est personnalisant ou qui permet de faire rentrer un individu dans une strate, au sens de la médecine stratifiée. C'est l'enregistrement, la mesure dans le temps de la variation en concentration de ces marqueurs chez une personne prise individuellement. Ce n'est pas le niveau absolu de la concentration en marqueurs sériques qui va faire la différence, c'est son évolution chez une personne. Donc, comme vous le voyez, si on compare ces deux types de marqueurs, la personnalisation, dans le cas du marqueur sérique, n'est pas définie en référence à des voies de signalisation moléculaire, à ce renvoi de protéines mutées à protéines mutées. Mais la personnalisation est définie en référence à un profil de variation quantitative d'un, de ces marqueurs qui oblige à prendre en compte directement le contexte de vie dans lequel la personne se trouve à un moment donné. Donc ces deux types de biomarqueurs, génétiques et sériques, ne renvoient pas au même concept de la personnalisation, au sens où ils ne signifient pas du tout, ils n'impliquent pas du tout la même conception ou le même rapport au temps. Dans les biomarqueurs génétiques, le temps intervient, bien sûr. Le facteur temps est très important, ne fût-ce que parce que, encore une fois, il y a une très grande mutabilité génétique des tumeurs, et il faut en quelque sorte en permanence courir après le temps. C'est-à-dire que le temps ici apparaît comme ce qui fait un obstacle à une stratégie de personnalisation des thérapies. C'est justement parce que la tumeur est hautement évolutive, qu'elle est prise dans un processus temporel d'évolution continue, que la médecine personnalisée peine précisément à stabiliser un cocktail de thérapie et qu'il faut constamment relancer la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouvelles cibles actionnables. Or, pour ceux qui s'occupent de marqueurs sériques, je dirais que le temps n'est pas du tout un obstacle, mais c'est le cadre a priori de l'approche personnalisée en cancérologie. C'est justement parce qu'on ne se focalise pas sur l'état statique d'une personne, mais qu'on resitue l'évolution des concentrations en marqueurs dans le temps pour une personne donnée, qu'on peut personnaliser l'approche à la fois diagnostique et surtout pronostique des tumeurs. Le marqueur sérique est tout à fait générique et impersonnel. Il ne devient personnalisant que s'il est replacé dans le continuum de ses variations quantitatives dans le temps. Donc vous voyez qu'on a là, par conséquent, deux manières extrêmement différentes d'inscrire les profils moléculaires de chaque individu dans le temps. Les marqueurs génériques peuvent être ciblés par des molécules d'intérêt. Les marqueurs sériques sont utilisés pour suivre l'évolution des tumeurs et l'efficacité des traitements. Dans les deux cas, ces deux marqueurs ont des statuts épistémiques extrêmement différents et renvoient à des concepts de la personne et de prise en charge de la personne, de personnalisation, qui sont elles-mêmes, eux-mêmes et elles-mêmes, des stratégies différentes. Il me semble que la diversité des biomarqueurs, il y a toute une panoplie, différents types de biomarqueurs, constitue une voie d'accès privilégiée à la polysémie du concept de personne, et que cette polysémie donc a une signification du point de vue même de la médecine technoscientifique et des objets qu'elle privilégie. Et je dirais même que non seulement différents types de biomarqueurs, j'ai donné les exemples d'un biomarqueur génétique et un exemple d'un... Enfin, j'ai évoqué les marqueurs génétiques et les marqueurs sériques, renvoient à des concepts différents de la personnalisation en médecine, mais on peut faire l'hypothèse, j'en dirai pas plus parce que ça va être l'un des objets de notre prochain programme de recherche, on peut faire l'hypothèse qu'en prenant un même biomarqueur, il est possible de suivre sur l'ensemble de son processus d'identification, de caractérisation et de validation, hein, jusqu'à un test utilisé en routine clinique, il est possible de suivre ce biomarqueur et d'examiner tout au long de ce parcours de recherche translationnelle, donc, les redéfinitions successives dont le concept de personne est l'objet. C'est-à-dire que je ne pense pas que la recherche translationnelle, contrairement à une fausse idée qu'on pourrait avoir, est un processus continu, linéaire. Ce serait d'ailleurs assez curieux de revenir à une vision linéaire de la science, alors que ça fait 30 ans que les science studies nous disent que ce n'est pas du tout un processus linéaire, c'est un processus hautement complexe, de traduction permanente, etc. Mais effectivement, il me semble que ce n'est pas du tout un processus linéaire. La recherche translationnelle peut être au contraire vue comme un processus compliqué où à chaque étape, eh bien, les cadres épistémiques sont refondus et je pense le concept de personne, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on pourrait faire, se trouve redéfini par les différents acteurs et qu'à travers ce processus, c'est à une hétérogénéité des concepts de la personne dans la médecine personnalisée qu'on assiste. Donc pour finir, il me semble que je crois qu'il ne faut pas se limiter à envisager la médecine personnalisée du point de vue de ce clivage un peu trop simple entre, on va dire, le personnel moléculaire et le personnel au sens du sujet pris dans le colloque du patient et du médecin, objet de soins, etc. Je pense que la médecine personnalisée, et c'est ce qui fait son intérêt, déplace les termes de ce débat. et les déplace en direction d'une prise en compte, une analyse de cette polysémie dans les concepts mêmes et dans les technologies que cette médecine, les différentes technologies que cette médecine met en œuvre. Bon, c'est évidemment à ce stade une simple hypothèse. Encore une fois, j'ai fait état ici de l'état d'aboutissement d'un premier travail sur le sujet et ce sera l'objet d'un prochain projet de recherche. Voilà, merci.